Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve avec le CMJ de Crépy-en-Valois. On est actuellement à l'Assemblée nationale. Je suis Timéo Pontus et nous couvrons donc du coup cette sortie du Conseil municipal des jeunes de Crépy-en-Valois. Je suis avec monsieur Pierre Vatin, député de la 5e circonscription de l'Oise. Donc bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc je vous remercie de m'accorder ces quelques minutes pour discuter avec vous. J'ai prévu quelques questions à vous poser. Premièrement, nous aimerions savoir en quoi consiste votre métier.
Alors député, ça consiste surtout à être le représentant des habitants de la circonscription, parce qu'on est élu de la nation, certes, mais pour une circonscription donnée, en l'occurrence la 5e circonscription qui va de Compiègne à Crépy-en-Valois, de Crépy à Étré-Saint-Denis, d'Étré-Saint-Denis à Attichy et d'Attichy à Crépy-en-Valois, qui regroupe 70 communes.
Combien d'heures travaillez-vous en moyenne ?
Écoutez, je ne compte pas mes heures, mais les journées sont longues et puis... Le week-end, c'est aussi du travail, que ce soit de la représentation en répondant aux invitations des communes, des associations, de qui souhaite m'inviter à ce qu'il organise. Et puis, c'est aussi être à la disposition des administrés pour répondre à toutes leurs questions.
Une question un peu peut-être sensible, mais quel est votre salaire en tant que député ?
Alors, ce n'est pas une question sensible parce que c'est écrit partout. On tape ça sur Internet, on le trouve. C'est 5 500 € avant impôt.
Donc vous m'avez déjà défini vos missions. Depuis combien de temps êtes-vous engagé en politique et quel est votre parcours ?
Alors je suis engagé en politique depuis toujours, on va dire, parce que ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais ado, je me souviens d'avoir suivi l'élection présidentielle de 1981, par exemple. Et puis je me suis engagé concrètement et dans le travail à partir de 1996 aux côtés de Lucien de Gauchy, qui était député de la 5e circonscription.
Pour accéder du coup à cette fonction de député représentant du peuple, quel cursus scolaire avez-vous fait ?
Alors, pour être député, il y a trois conditions. Il faut avoir 18 ans, il faut être inscrit sur les listes électorales et il ne faut pas avoir de casier judiciaire. C'est ce qui permet de se présenter à l'élection. Ensuite, il faut avoir la chance d'être reconnu par les citoyens et puis que les citoyens votent pour vous. Il faut avoir la chance d'être élu. Il n'y a pas de cursus scolaire particulier. Moi, j'ai fait du droit, mais j'aurais très bien pu faire un apprentissage en menuiserie, par exemple, et dire « mais ça m'intéresse, je veux me présenter et avoir la chance d'être élu ».
En vous engageant, quelles valeurs souhaitiez-vous défendre et quelles valeurs défendez-vous aujourd'hui ?
Mais, la première valeur à défendre, une fois qu'on est à l'écoute des citoyens, c'est de raisonner en termes de bon sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations où des décisions sont prises et elles vont à l'encontre du bon sens paysan, je dirais, du bon sens commun de tous les jours. Elles vont à l'encontre de la vie quotidienne des gens. Il faut écouter ce que les gens vivent pour essayer de prendre les meilleures décisions. Et vous allez peut-être me poser la question sur les retraites, qui est l'actualité du moment. Et il y a des tas de choses qui sont proposées dans ce projet de loi qui sont un peu éloignées du bon sens de la vie quotidienne des gens.
Que conseilleriez-vous donc à un jeune comme nous, par exemple, moi ou d'autres membres du CMJ, qui souhaiteraient s'engager en politique aujourd'hui ?
S'engager en politique, c'est un acte de tous les jours, de chaque instant. Et puis, c'est avoir la volonté de servir ses concitoyens. C'est comme ça que je conçois ce rôle-là. Je pense que c'est comme ça que chaque élu doit le concevoir. C'est servir ses concitoyens. Moi, je n'oublie jamais que j'ai la chance d'être 1 sur 577 députés, mais je suis 1 sur 577 sur 67 millions de Français. Ça aspire à la modestie et à relativiser la charge. C'est un honneur, mais en même temps, on est là pour servir 67 millions de personnes. Il faut toujours avoir ça à l'esprit.
Je vais peut-être passer maintenant à des questions plus politiques, puisque ça, on a parlé de ça et ça ne vous dérangeait pas d'évoquer des sujets d'actualité. Quelle est votre position, vous, par rapport à la réforme des retraites qui est en train d'être débattue en ce moment ?
Mais dans l'immédiat, c'est ce que j'ai expliqué depuis que des journalistes m'ont interrogé sur ce sujet-là des retraites. Je n'ai pas varié. Je ne suis pas favorable au projet de loi en l'état, parce qu'il y a plein de situations où ça va à l'encontre du bon sens dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, sur les 1200 euros, retraite minimum. Donc ça paraît très séduisant comme ça. Sauf que dans le texte du gouvernement, il y a énormément de situations où on va défavoriser les gens par des décotes en disant vous avez eu une année de chômage, vous avez eu une année de maladie, donc vous avez une carrière complète, mais pour autant, on va vous appliquer une décote. Donc au lieu de vous porter votre retraite à 1200 euros, on va vous mettre un abattement de temps en temps, alors que ces gens-là ont droit à une retraite à taux plein. Je trouve que c'est complètement incohérent, et puis c'est proposer une réforme qui n'en est pas une, c'est faire croire qu'on va améliorer les choses, alors qu'il y a énormément de gens qui n'auront pas cette amélioration-là. Je pense que tant que le gouvernement n'entend pas qu'il faut être juste avec les citoyens quant à leur retraite, c'est un exemple, il y en a d'autres dans le texte, mais je ne peux pas être d'accord avec la réforme telle qu'elle est présentée. Donc j'espère que l'Assemblée nationale pourra aller au bout du texte, j'en doute un petit peu, et que le Sénat derrière pourra aussi amender les choses de sorte que ce genre d'imperfection soit réparé et que dans ce cas-là, je puisse voter le texte. Mais pour l'instant, on en est loin.
Non, c'est plus à l'international. Est-ce que l'Assemblée, en premier lieu, a un droit de regard sur la politique du gouvernement à l'international, la politique diplomatique du gouvernement ?
Oui, l'Assemblée nationale a un droit de regard sur l'ensemble de la politique du gouvernement, quels que soient les sujets, et peut tout à fait se prononcer aussi sur les affaires internationales. En l'occurrence, on pense en ce moment à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On peut tout à fait émettre un avis, voire un vote, sur ce sujet-là.
Oui, justement, à ce propos, quelle est, vous, votre position par rapport ces derniers temps les envois d'armes à l'Ukraine se sont intensifiés, avec notamment des armes comme des chars d'assaut de tous les pays d'Europe. Hein, l'Allemagne, Royaume-Uni et la France ont promis des grosses livraisons d'armes à l'Ukraine. Est-ce que vous approuvez ces envois ? Quelle est votre position par rapport à cette politique nouvelle vis-à-vis de l'envoi d'armes à l'Ukraine ?
Je pense qu'à un moment donné, ça va être très compliqué de dire qu'on n'est pas co-belligérant alors qu'on fournit des armes. Et puis moi, j'ai été très surpris. Le président du Parlement ukrainien a été reçu à l'Assemblée nationale il y a 15 jours. Plutôt que de parler de paix, on a parlé de guerre. Et je pense qu'on est dans un cycle qui nous entraîne plus vers le conflit que vers la résolution du conflit. Moi, j'aurais beaucoup aimé que le président du Parlement ukrainien nous dise « Oui, on est en conflit, mais il faut qu'on trouve des solutions de paix ». Et il nous a réclamé des avions, il nous a réclamé des chars, et il s'est fait applaudir en disant « Il faut que l'Ukraine gagne la guerre ». Donc je veux bien que l'Ukraine gagne la guerre, mais si on ne cherche pas des solutions de paix en même temps, je ne vois pas comment ça ne peut pas nous entraîner vers une aggravation du conflit.
Dernière question aussi sur la politique internationale. Dernièrement, les États-Unis ont déclaré avoir abattu des appareils d'observation dits appartenant au gouvernement de Pékin au-dessus de leur territoire et de celui du Canada. De votre point de vue, quelle est la réaction que la France devrait avoir face à ces événements qui peuvent être assez graves ?
Je pense que si le président de la République ou le gouvernement a une opinion à émettre, c'est d'appeler au calme. Parce que ces ballons-là sont, paraît-il, plus précis que des satellites. Bon, je veux bien l'entendre. Ensuite, ils sont à plus de 20 000 mètres d'altitude. Or, le territoire, le survol d'un pays, c'est jusqu'à 10 000 mètres. Au-dessus, on n'est plus en territoire du pays donné. Donc je pense que les Américains et les Chinois aiment bien se taquiner pour parler gentiment. Et on en est là. Je ne pense pas que ces ballons-là permettent de voir davantage de détails d'une installation que les satellites. Alors du point de vue de la technique, peut-être que je me trompe, mais c'est attirer l'attention sur quelque chose qui me semble dans l'immédiat complètement secondaire.
Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé le temps que vous m'avez accordé.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter un reportage proposé par le Conseil municipal des jeunes de Crépy-en-Valois, qui était en visite à l'Assemblée nationale sur invitation de M. Pierre Vatin, député de la 5e circonscription, qui s'est bien prêté au jeu de l'interview. Bonne écoute sur RVM.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.